Bonjour et bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. À la technique Jacques Nizin, Yves Kengen au micro. Alors, il faudrait revenir d'un séjour sur une île déserte pour ne pas avoir eu d'écho du débat lancé sur la question des enfants morts-nés. Un débat qui s'est amplifié suite à un projet de loi du CDNV dans un dossier piloté par le ministre de la Justice, Koen Gaetz. Alors, celui-ci entend rendre obligatoire l'inscription à l'état civil de tout, entre guillemets, enfant né sans vie dès le 140e jour de grossesse, alors que le seuil de viabilité des grands prématurés est de 154 jours. Il propose également d'offrir la possibilité, facultative, d'un acte de naissance sans délai minimal de grossesse. On pourrait donc, dans ce cas, donner une personnalité juridique à un embryon de 3 jours. Dans ses arguments, M. Gaetz et le CDNV affirment vouloir rencontrer la souffrance des parents et prétend s'appuyer sur des recommandations de l'OMS. Pour en débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Losberg de la cellule études et stratégies du CAL. Bonjour.
Bonjour.
Et le docteur Yvon Anglaire, doyen de la faculté de médecine de l'ULB. Bonjour.
Bonjour.
Sylvie Losberg, vous avez été la porte-parole du Centre d'action laïque dans ce dossier. Il y a d'abord eu une lettre ouverte du président du CAL, Henri Bartholomé Sen, qui a lancé la polémique. Alors, pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y avait urgence à lancer ce débat?
Il y avait urgence puisque le débat est débattu au sein de la commission justice de la Chambre. Mais ça fait 6 ans que le Centre d'action laïque est vigilant sur ce dossier puisque chaque année, dès que les propositions reviennent sur la table, nous envoyons des courriers aux mandataires politiques pour leur signaler que dans ce dossier, il y a l'humanisation du deuil qui est la motivation des propositions de loi et que pour nous, humaniser le deuil est absolument nécessaire, mais que ça ne revient pas à humaniser le fœtus. Et là, nous sommes, je pense, dans ce point de vigilance à un moment charnière, oui.
Quelques jours plus tard, vous avez sorti un nouveau communiqué. Pourquoi avoir vous-même relancé le débat peu après l'avoir ouvert?
Alors, il faut savoir que ça fait depuis 1997 que des propositions de loi cherchent à améliorer la prise en charge du deuil des personnes qui sont confrontées à une grossesse qui n'aboutit pas, et que dans ces propositions de loi, il y a la volonté de modifier le code civil. Pourquoi nous avons lancé un communiqué de presse quelques jours seulement après la lettre ouverte du président? C'est que nous avons découvert que le 6 mai, le jour même où le ministre de la Justice recevait un rapport sur ces propositions de loi, le CDNV a complètement modifié sa stratégie et donc au lieu de modifier un article du Code civil qui traitait des actes de décès, il a proposé de modifier l'article qui traitait des actes de naissance. Et donc effectivement pour nous c'était le signe évident que le CDNV était à la manœuvre et tentait de faire dévier le débat.
Donc, dévier le débat, ça veut dire qu'il y aurait un agenda caché ou un objectif poursuivi par le CDNV et les autres partis qui ont également déposé des propositions de loi?
Alors, dans le chef du CDNV, ça paraît évident. Dans le chef des autres partis, ça l'est beaucoup moins, puisque les motivations premières, c'est quand même d'aider les personnes qui sont confrontées à la perte d'une grossesse ou à une naissance d'un enfant mort-né en dessous des 180 jours réglementaires. Donc, effectivement, le débat doit être porté sur la table, il faut s'en occuper, mais peut-être pas en modifiant le Code civil.
D'accord. Docteur Anglaire, à entendre le CDNV, les hôpitaux ne feraient rien pour accompagner les parents et traiteraient les enfants morts-nés comme des, je cite, « déchets hospitaliers ». Quelle est la réalité du terrain, selon vous?
Donc, la réalité du terrain n'est évidemment pas celle-là, et depuis plusieurs décennies. Donc il est vrai que à une certaine époque, on accordait peu d'attention au processus de deuil suite à une perte d'une grossesse relativement avancée qui était une grossesse désirée. Il y a toute une littérature qui a été développée dans ce domaine et aujourd'hui, on a une série de processus qui sont destinés à accompagner ce deuil. La première chose, c'est de reconnaître la perte de ce fœtus et de ce fœtus désiré, de faire un effort pour qu'il ait une matérialité, c'est-à-dire que les parents aient un objet de deuil dont ils puissent se séparer. Pour ça, il faut concrétiser. C'est un peu ce qu'on a avec la difficulté dans les dictatures où les gens ont disparu pour leur entourage de faire le deuil parce qu'il n'y a pas de matérialité du décès. Et donc, on encourage à prendre le fœtus dans les bras, éventuellement à prendre des photos. Alors, c'est parfois contesté parce qu'on a le sentiment que toutes les personnes n'ont pas envie de ça. Et donc, il faut évidemment adapter à chaque personne, mais d'une manière générale, l'observation du deuil montre qu'il est plus facile de le faire quand il est matérialisé. Et alors, quand les conditions sont réunies, ça dépend un petit peu des régions, puisqu'on n'est pas dans une procédure uniforme, il y a la possibilité d'une incinération et de disperser les cendres au niveau d'un carré des étoiles qui se trouve dans le cimetière, sans évidemment créer une personnalité juridique et une inscription à l'état civil. Donc, il y a bien des choses à faire.
Qui sont faites.
Qui sont faites de l'initiative des hôpitaux. Et il y a évidemment, moi je souris un petit peu, parce que si vraiment c'est la souffrance des femmes qui perdent leur fœtus qui est en cause, mais ça devrait être discuté à la commission de la santé, non pas à la commission de la justice. Ça, c'est quand même la première chose. On est dans l'accompagnement d'une souffrance qui relève de la médecine et de la problématique du deuil et non pas d'une problématique de droit. Et d'autre part, on aurait bien aimé que ces projets soient encadrés par des spécialistes du terrain. Or, on sait que les auditions préalable. Alors ça change maintenant sous la pression évidemment du public et entre autres des prises de position du CAL, mais que l'ensemble du processus s'est fait avec des discussions entre juristes qui n'ont probablement jamais côtoyé une femme qui a perdu son fœtus à 20 semaines de leur vie.
Alors, puisque vous posez la question du cadre juridique, je vous propose d'écouter Yves-Henri Leleu, professeur de droit familial à l'Université de Liège et à l'ULB, que nous avons interviewé par téléphone il y a quelques minutes. Yves-Henri Leleu, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander d'abord, quel serait l'impact d'un tel texte sur le droit à l'avortement en Belgique ?
L'impact direct, il n'y en a pas, mais indirect, il est certain, parce que si les propositions qui sont en cours et qui prévoient la déclaration obligatoire d'un fœtus de plus de 140 jours, donc la confection d'un acte de naissance, on reconnaît la personnalité juridique d'un fœtus, ce qui est absolument impossible pour le moment, et qui dit reconnaissance de la personnalité juridique du fœtus, dit quelque part cantonnement de la loi sur l'avortement à un registre de plus en plus exceptionnel, de plus en plus attentatoire, disons, à la vie, et pas seulement à l'être humain qui a toujours constitué le fœtus, ça personne n'en a douté, mais jusqu'à présent, personne ne reconnaît à un fœtus la qualité de personne vivante.
Est-ce qu'il y a également des risques en matière de droit pénal ?
Oui, parce que vous devez savoir que jusqu'à présent, lorsque un fœtus, donc dans le ventre de sa mère, meurt par un acte fautif d'une personne, un accident de voiture ou bien un médecin qui commet un acte invasif dangereux, eh bien, il n'y a pas d'infanticide, il n'y a pas d'homicide. Pourquoi ? Parce que le fœtus n'a pas la personnalité juridique dans le ventre de sa mère. Il ne l'acquiert en Belgique qu'à partir du moment du travail de l'accouchement. C'est très important pour le droit pénal, hein, pour les peines qui sont éventuellement infligées à ces personnes qui portent atteinte au fœtus. Et on règle le problème en Belgique, comme en France d'ailleurs, par une autre qualification pénale, celle de coups et blessures sur la personne de la mère, avec éventuellement responsabilité civile à la clé. Donc il n'y a pas de problème d'indemnisation, mais il y a une difficulté majeure avec cette absence actuelle de reconnaissance pénale de la personnalité juridique tant que le fœtus est dans le ventre de sa maman.
En matière plus exactement de bioéthique, quelle est la situation actuellement en Belgique ?
Ce qui me préoccupe un petit peu avec ces propositions de loi, connaissant le paysage bioéthique belge, c'est que toutes nos lois bioéthiques qui nous mettent vraiment à l'avant-scène mondiale en termes de progressisme, en termes de respect des décisions des personnes, toutes nos lois sont fondées sur un principe, celui de l'autodétermination de la personne, celui de la maîtrise de la personne sur son corps, encadré bien sûr, hein, mais encadré à la marge. Alors, si des lois en matière bioéthique, puisque c'est ce dont il s'agit aussi, la reconnaissance de la personnalité prénatale, si des lois donnent une existence juridique à des parties du corps des personnes, forcément que la possibilité pour ces personnes de disposer de leur corps se réduit. Il y aurait là une nouvelle loi qui ne serait, selon moi, pas du tout en accord avec la ligne de cohérence qui traverse toutes nos lois bioéthiques et que, personnellement, je pense, il faut conserver et défendre à tout prix.
Un dangereux précédent ?
Ce serait un dangereux précédent. Ce serait un précédent parce que jusqu'à présent, depuis une vingtaine d'années, toutes nos lois bioéthiques partent du même principe. Il n'y a pas de retour en arrière, disons. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment de sérieuses raisons de s'émouvoir face à cette proposition de loi qui rend obligatoire la déclaration de naissance d'un fœtus in utero.
Professeur Leleu, je vous remercie.
Voilà, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
J'en reviens avec vous, docteur Engler, et c'est au médecin que je m'adresse. Qu'en est-il finalement du fameux critère de viabilité ? On parle de 180 jours, 154 jours, 140 jours, on s'y perd un petit peu.
Mais donc la question de la viabilité n'est pas très pertinente en réalité dans ce débat. Il faut rappeler qu'en Belgique, tout enfant qui naît vivant est déclaré indépendamment de son âge gestationnel. Alors, un enfant né vivant aujourd'hui, dans les situations les plus extrêmes, peuvent descendre jusque 22 semaines. Donc, il y a un article américain qui vient de sortir sur quelques survivants après une naissance vivante à 22 semaines. Aujourd'hui, en Belgique, le consensus pour réanimer tourne autour de 24-25 semaines parce que les risques, entre autres, d'atteintes neurologiques très sévères deviennent extrêmement élevés quand on descend en dessous de ces âges. Mais cela n'affecte pas la déclaration de naissance. La question qui est posée ici, c'est le fait de donner un statut d'inscription à l'état civil à un fœtus qui est né mort. Et donc, c'est bien là la question. Et donc, je pense qu'il faut séparer la discussion de la viabilité. La question de la viabilité n'est pas réellement, me semble-t-il, au centre du débat. Ce qui est au centre du débat, c'est de prétendre, ce que je pense qui est fondamentalement faux, que le processus de deuil et que la souffrance d'une femme ou de son compagnon qui a perdu un fœtus désiré va être amoindrie parce qu'on donnera à ce fœtus un statut d'enfant. Je pense que c'est exactement l'inverse en réalité. C'est que vous poussez les gens dans l'idée que c'est comme s'ils avaient perdu leur enfant d'un an ou de deux ans. Alors la souffrance est immense, mais elle ne va rien gagner, au contraire, à ce qu'on pousse les personnes dans un discours qui serait celui « c'est comme un enfant né que vous auriez perdu ». Je pense qu'il faut garder une place spécifique à l'accompagnement du deuil dans les pertes en cours de grossesse. Je crois que si le législateur veut faire œuvre utile, eh bien qu'il finance cet accompagnement, qu'il finance la possibilité pour ces personnes de faire incinérer leur fœtus lorsqu'ils en ont le désir et non pas en le rendant obligatoire. Et je suis très convaincu que ce n'est pas l'inscription à l'état civil qui va améliorer la situation.
Je suis d'accord pour dire que le critère de viabilité n'est peut-être pas au cœur du débat, mais il est quand même parmi les arguments qu'utilise le CDNV pour rendre obligatoire l'acte de naissance à partir de 140 jours. Alors, Sylvie Losberg, vous avez parlé d'une mauvaise interprétation des critères de l'OMS.
Oui, donc effectivement, je suis d'accord avec le docteur Anglaire pour dire que les critères de viabilité n'ont rien à faire dans ce dossier. Mais pour étayer...
Ils y ont quand même été introduits.
Oui, c'est-à-dire pour étayer les velléités législatives qui tendent à donner un statut au fœtus, plusieurs propositions de loi se basent sur ce qu'ils appellent les critères de viabilité de l'OMS. Or, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé recommande que l'on enregistre à partir de 20 semaines de grossesse les pertes de grossesse.
Donc 140 jours.
Oui, 140 jours. Ah, donc c'est la moitié du temps normal d'une grossesse. Hein. Que l'on enregistre ces grossesses à des fins statistiques pour prévenir les morts fœtales, pour avoir, on va dire, un aperçu de l'état de la santé dans le monde. Et ce sont des critères d'enregistrement statistique. Et l'OMS note bien dans le document qu'il ne s'agit pas de critères de viabilité médicaux.
Mmh. Et d'ailleurs, donc, excusez-moi, mais c'est ce qu'on fait. Donc, nous déclarons à partir de 22 semaines ou de 500 grammes les morts-nés de façon à avoir des indicateurs de santé publique. Mais c'est deux débats parfaitement différents.
Quelle est la situation en Flandre actuellement ? Parce que je pense qu'il peut y avoir aussi une confusion, peut-être pas volontaire dans le chef des promoteurs de cette proposition de loi, mais une confusion entre ce qui se passe actuellement en Flandre et ce qu'on aimerait qu'il se passe également dans les autres parties du pays.
Alors, c'est vrai que quand on regarde les propositions de loi, finalement, au départ, ça émane des partis dits chrétiens. Hein, donc c'était au départ le parti chrétien de Joël Milquet en 1997 qui a commencé avec cette notion d'inscrire le deuil,
dans la loi. Le PSC à l'époque.
Oui, hein. Voilà, oui. Bien que je ne sais pas si c'était encore le PSC en 1997. Oui, d'accord. Donc c'était parti chrétien, voilà. Et donc d'introduire cette notion de deuil dans la loi, c'est arrivé à ce moment-là par Joël Milquet. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'à partir du début des années 2000, on a instauré dans les trois régions du pays ce qu'on appelle les parcelles d'étoiles, que le docteur Anglaire a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des carrés dans les cimetières où on peut incinérer ou disperser les cendres après incinération ou inhumer à partir de 15 semaines de grossesse à Bruxelles et en Wallonie, et c'était 12 semaines suite au décret flamand. Il faut savoir, et ça, c'est aussi un des éléments qui nous a alertés, c'est qu'en juin 2014, en Flandre, le délai minimal pour inhumer ou incinérer une fausse couche a été abrogé. Donc c'était 12 semaines qui est la limite de l'avortement en Belgique. Hein. Et aujourd'hui, vous pouvez incinérer ou inhumer à partir d'un jour ou deux jours, c'est selon. Et donc effectivement, il y a là la question de l'accompagnement du deuil. Et là, je rejoins aussi ce qui vient d'être dit sur l'individualisation de cet accompagnement. Mmh. Il ne s'agit pas de dire à toute personne, voilà, vous pouvez avoir un acte d'enregistrement, vous pouvez avoir une parcelle d'étoiles, parce que c'est très violent. Il y a beaucoup de femmes qui, ayant perdu une grossesse en cours de route, se disent, bon, bah, j'ai perdu ma grossesse, ok, je tourne la page et voilà, et je me relance dans la vie active. Et qui n'ont pas forcément besoin de considérer ça comme un deuil. C'est un avatar, c'est un accident de la vie. On perd une grossesse, eh bien, on recommence et on aura des enfants un peu plus tard. Et de là à obliger les gens à aller voir le fœtus à la morgue, comme ça se fait dans certains hôpitaux, à partir de 4 mois. Hein. Donc ça veut dire que c'est quand même très très tôt dans la grossesse. Je pense que c'est très violent. Et là, je crois aussi que nous devons vraiment aider le législateur à prendre en compte l'individualisation de la problématique. Il ne s'agit pas par une loi de faire en sorte que tout le monde accomplisse les mêmes actes et la même manière de vivre ces accidents de la vie. Ça, je crois que c'est vraiment très important pour les laïcs. Oui.
Docteur Anglaire ?
Oui, je pense qu'il y a quand même un très court rappel de biologie à faire. Donc,
allons-y.
Dans l'espèce humaine, la perte embryonnaire précoce est extrêmement fréquente. Donc il faut savoir que pour un embryon fécondé, pour 100 embryons fécondés, 80 d'entre eux ne donneront jamais d'enfants. Les pertes embryonnaires précoces, dont la très grande majorité se passe avant même l'implantation et donc ne donne aucun signe à la femme comme quoi elle a eu une grossesse débutante, se poursuit par les fausses couches précoces qui sont très très bien connues dans la population depuis très longtemps et qui sont une caractéristique entre guillemets acceptée par l'espèce humaine. On sait que le risque de fausses couches c'est jusqu'à la fin du troisième mois. Et donc, jusqu'à 14 semaines, ce risque va décroître. Et une fois passé 14 semaines, le risque de perdre la grossesse devient très faible, de l'ordre de 2%. Et c'est évidemment dans ce groupe-là que la perte est ressentie plus durement, puisqu'au fond, elle s'est passée au-delà, entre guillemets, du délai normal. Mais donc, il faut rappeler que la perte fœtale, la perte embryonnaire et la perte fœtale sont un phénomène extrêmement fréquent et que le pathologiser, donc en faire par essence un problème, est de nature à compliquer la vie d'un très grand nombre de femmes si on y prend garde. Donc je pense qu'il faut être attentif aux signes cliniques, accompagner, faire un certain nombre de choses dont il a été bien montré par les études antérieures qu'elles sont favorables à faire le deuil lorsqu'il est nécessaire, mais on est évidemment, comme vous vous rendez bien compte, dans un débat qui est à des kilomètres de celui de donner un statut juridique, sur lequel d'ailleurs je pense que les personnes qui perdent un fœtus ne sont pas fondamentalement attachées. Évidemment, si vous le créez, vous allez créer le besoin et la souffrance, mais on est évidemment très loin de s'attacher à l'accompagnement des femmes qui perdent un fœtus en cours de grossesse.
Qu'en est-il à cet égard de la liberté du médecin vis-à-vis de son patient, du colloque singulier ? Est-ce que la loi peut s'inviter dans le cabinet médical ?
Oui, la loi s'invite tout le temps. Je vous rappelle que la déclaration de naissance est une des exceptions au secret médical, que ne pas déclarer une naissance en Belgique est une infraction pénale. Donc bien sûr, la loi sur l'interruption de grossesse, enfin il y a de multiples exemples qui montrent que la loi s'invite dans notre pratique, essentiellement dans des domaines qui touchent à l'éthique, ou à des conflits de valeurs, parce qu'évidemment, on ne légifère pas sur, je ne sais pas moi, le pontage coronarien ou le traitement de l'infection urinaire. On légifère sur la greffe d'organes, sur la reproduction, sur l'interruption de grossesse, sur la fin de vie, qui sont des domaines où il y a des conflits de valeurs, et je pense que il est légitime que le législateur le fasse. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire dans n'importe quelle direction. Et je pense qu'ici, on est clairement à contre-courant de notre évolution du cadre éthique et législatif belge.
Nous approchons tout doucement de la fin de notre émission et j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Donc, je ne sais pas si on pourra les poser toutes, mais on a beaucoup dit dans le débat, et notamment au niveau du Centre d'Action Laïque, que la proposition de loi dont il est question était une attaque contre le droit à l'avortement. Sylvie Glosberg, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela constitue une menace pour le droit à l'avortement ?
L'analyse sur pièce démontre qu'effectivement, on est face, surtout dans la proposition CDNV, mais aussi dans celle de l'OpenVLD, par exemple, qui prévoit un acte de naissance à 140 jours, on est clairement dans la tactique éprouvée des lobbies anti-avortement. La seule manière, dans les pays où il y a une dépénalisation partielle ou totale de l'avortement, de revenir sur l'acceptation générale de l'avortement, c'est de déclarer que l'embryon est un enfant. C'est de dire que dès qu'il y a conception, il y a la vie à protéger. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, puisqu'on donnerait un acte de naissance à un embryon ou à un fœtus qui est décédé et qui est donc né mort, si on peut parler de cette manière paradoxale. Et donc pour nous, il est très important d'une part, de considérer ce qui est en jeu aujourd'hui dans ces propositions de loi, et donc c'est de donner un statut juridique au fœtus, puisque le professeur Leleux l'a évoqué, mais un statut juridique de personne, c'est un nom de famille et un acte d'enregistrement à la commune. Et tout ça est prévu dans ces propositions de loi. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de déplacer le débat, et donc pour nous, il est clair que c'est une attaque détournée à la dépénalisation de l'avortement. Et évidemment, si nous sommes sortis du bois, si je puis dire, c'est pour y faire échec. Et là, je pense que d'un point de vue médical, il y a évidemment un débat à reprendre et des droits acquis à préserver de toute urgence.
Docteur Anglais, rapidement
oui,
là-dessus.
Tout simplement, l'intitulé du projet qui est de dire « les enfants sans vie » et non « les fœtus ». Sans vie est en soi déjà une prise de position. Les mots sont très importants dans les débats bioéthiques. Il faut toujours accorder beaucoup d'importance et beaucoup d'attention aux mots qui sont utilisés parce que les mots sont symboliques et ici, je pense qu'ils sont très clairs.
C'est effectivement très clair. Alors, je vais encore jouer le candide de service, mais on a lu également dans la proposition de loi que l'une des motivations pour la déposer était que voir échouer un projet de donner la vie et qu'il se termine par une déclaration de décès, un acte de décès, était très pénalisant pour
les personnes concernées.
Or, si ici on pose un acte de naissance, il devra tout de même être suivi par un acte de décès. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un non-sens ?
Oui, et donc on pourrait, je pense, à l'envi démontrer les paradoxes qui se trouvent dans cette texte législatif. Effectivement, quand le ministre CDNV de la Justice dit que c'est trop dur pour ces personnes de recevoir un acte de décès et qu'il faut leur donner un acte de naissance, de toute façon, l'acte de naissance sera suivi d'un acte de décès. Donc, on voit bien que, enfin, pour nous, c'est triste à dire, mais c'est quand même une instrumentalisation du vécu de ces personnes. Il faut le prendre en compte et nous pensons aussi que ça doit être fait via le ministère de la Justice et la commission, le ministère de la Santé et la commission Santé et pas la commission Justice de la Chambre. Et utiliser cette douleur à des fins détournées, c'est quand même assez grave. Et je pense que c'est pour ça que nous avons vraiment voulu alerter le monde politique, le monde médical, le monde juridique et le citoyen en général, parce que ça peut avoir des implications vraiment très graves. Oui.
Je vous remercie. Donc, si vous voulez plus d'informations, nous mettrons en ligne sur le site www.laïcité.be toute une page consacrée à cette problématique avec énormément de documentation. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous remercie. Merci Dr Anglaire et Sylvie Leusberg d'avoir participé à notre émission Libre Ensemble dans un débat qui est certainement loin d'être clos. Bonsoir, merci de votre attention et à la prochaine émission. United.